les par actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités. Hélène Denis qui vous souhaite donc bien le bonjour en ce 19 février 2018. Et en manchette aujourd'hui, améliorer le sort des personnes handicapées. Le cégep est un droit, mais pas le diplôme. Accident de motoneige, elle perd l'usage de ses jambes à 23 ans. À 11 ans, elle ira se faire soigner à Cuba, faute de traitement ici. Et en entrevue, je recevrai Danielle Lessard, coordonnatrice au Carrefour québécois des personnes aveugles, qui nous parlera de la 4e édition de Stars d'un soir. Et aussi, Maître Normand Jutras, curateur public du Québec, pour nous parler d'une nouvelle campagne sur la protection des personnes inaptes. Une nouvelle tirée du site de Radio-Canada, les personnes handicapées sont encore peu nombreuses à accéder au marché du travail. Pourtant, le fait d'exercer un emploi peut leur permettre de trouver plus facilement leur place en société. C'est pourquoi Marie-Ève Hamilton réclame une aide beaucoup plus importante pour les citoyens vivant avec un handicap. Marie-Ève Hamilton a 24 ans. Elle vit avec une maladie cardiaque et un syndrome qui lui cause une surdité et une légère paralysie cérébrale. Malgré cette condition, elle affirme être en mesure de travailler. C'est capital. Sans travail, je sers à quoi? Je vais être utile à la société. Je ne veux pas être un fardeau. Toutefois, elle doit s'absenter régulièrement du travail pour se rendre à l'hôpital lorsque sa santé est plus fragile. Elle dépend aussi d'un médicament sans lequel un arrêt cardiovasculaire serait inévitable. Ces médicaments lui coûtent environ 250 $ par mois. C'est de l'argent qui ne sert qu'à ça. Il ne sert pas à payer mon loyer ou à remplir le frigo comme une personne ordinaire, précise la jeune femme. Marie-Ève Hamilton souhaite donc un soutien financier de la part du gouvernement pour l'aider à combler ses dépenses liées à son handicap. Je ne demande pas une faveur, je veux simplement qu'il y ait une équité. Si le gouvernement a une réelle volonté de lutter contre l'exclusion sociale, il faut aussi qu'il lutte contre l'exclusion économique. Nouvelle dans la presse.ca, le cégep, c'est un droit, lance Bernard Tremblay, président de la Fédération des cégeps du Québec. Bernard Tremblay plaide donc pour que les cégeps qui accueillent de plus en plus d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou des handicaps aient droit à de plus généreuses subventions, comme en bénéficient, fait-il remarquer, les élèves du primaire et du secondaire. D'emblée, chaque année, le programme Tremplin DEC admet au cégep 12 000 élèves. En très grande partie, ce sont là des jeunes à qui il manque des cours préalables, mais qui s'engagent à tout faire pour assurer leur réussite. Pour ceux-là, comme pour tous ceux qui ont des difficultés d'apprentissage ou des handicaps, le cégep doit être le plus accueillant possible, dit M. Tremblay. L'essayiste Normand Baillargeon, qui a longtemps été professeur à l'UQAM et avant cela au cégep, a répété sur maintes tribunes sa consternation de voir arriver à l'université des étudiants trop faibles en raison d'une réforme de l'éducation inadéquate à son avis. Certes, notre désir d'égalité des chances fait admettre des gens avec des troubles de toutes sortes qui n'auraient pas rêvé de fréquenter le cégep il y a 30 ans. N'empêche, selon lui, et malgré un certain clientélisme déplorable, c'est globalement une bonne chose. Faites à noter les difficultés d'apprentissage, la dyslexie, mais aussi la dysorthographie, la dyscalculie, les troubles de l'attention, etc., considérés comme tels jusqu'à tout récemment, sont désormais considérés comme des handicaps. Résultat, le nombre de cégepiens considérés comme handicapés a bondi, passant de 1303 en 2007 à 11337 selon le dernier décompte de 2014 de la Fédération des cégeps. We'll be right back. La quatrième édition de Star d'un soir, une soirée mettant en vedette le talent des personnes aveugles et malvoyantes, aura lieu au début du mois de mai et j'en parle avec la coordonnatrice au Carrefour québécois des personnes aveugles, Danielle Lessard. Bonjour, Madame Lessard.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous êtes inspirée du titre de l'émission qui était animée à l'époque par Pierre Lalonde? Star d'un soir?
Non, du tout.
Pas du tout?
On n'a jamais fait le lien.
Ah bon. Alors, quel est le concept de Star d'un soir?
Dans le fond, c'est qu'on invite toute personne avec un handicap visuel à venir nous faire une prestation de leur talent, que ce soit au niveau vocal, que ce soit
un monologue,
n'importe quel numéro dans le fond artistique.
Oui.
Là,
ça peut être de la danse aussi?
Oui, ça peut être n'importe quoi. Dans le fond, c'est qu'on veut que les gens découvrent qu'il y a des personnes qui ont un handicap visuel, mais qui ont un talent également.
Que ce
soit professionnel ou que ce soit aussi amateur. Là, c'est vraiment pour promouvoir ça, là, pour montrer aux gens que les personnes ont des talents, même s'ils ont un handicap visuel.
Et on doit avoir quel âge pour participer?
Dans le fond, nous, on a mis de 5 ans à 105 ans. Alors, n'importe quel âge.
Bon, alors, ce serait bien qu'il y ait un enfant de 5 ans et une personne de 105 ans cette année.
Oui, bien, le plus jeune qu'on a eu jusqu'à date, là, on avait une jeune fille de 6 ans. Là, c'est arrivé.
Ah oui, et la plus vieille personne, avec quel âge?
78 ans.
Bon, alors il n'est jamais trop tard pour participer à ce genre de concours. Et quels sont les prix qui sont remis lors de cette soirée?
Alors, on a trois catégories. On a la catégorie professionnelle que les gens décident dans le fond dans la catégorie qu'ils veulent être.
Mm-hmm.
Au niveau professionnel, ben, nous on disait quelqu'un, mettons, qui vit de son talent. Alors, le premier prix est de 300 $ et le deuxième prix est de 200 $. Ensuite, on a la catégorie amateur, les gens qui font par plaisir, là, qui peuvent en faire aussi là, un petit peu en spectacle.
Mais, oui.
Alors, eux autres, le premier prix, c'est 150 et le deuxième, 100 $. Et on a cette année, on a mis en troisième catégorie, loufoque. Alors, des personnes qui aiment, mettons, chanter, mais que les gens trouvent qu'ils ne chantent pas vraiment bien, ils aiment ça ou qui aiment jouer du piano ou quoi que ce soit. Et on a mis cette catégorie-là.
Oui,
vraiment, là, parce qu'on se dit, il faut que les gens viennent s'amuser. Il y a des gens qui le font, qui sont pas extraordinaires, mais qui sont quand même bien. Alors, on veut que les gens s'amusent. Alors, il y a un prix également pour la première place, 100 $ et la deuxième, 50 $. Fait que ça peut être quelqu'un qui pense que, tu sais, qui dit, ben moi, j'ai toujours rêvé de faire rire le monde, puis il essaie d'écrire un petit numéro de 2 minutes, 3 minutes. Ça peut être surprenant. On peut avoir des belles surprises.
Mais oui, vous en êtes à votre quatrième édition. Vous étiez là, vous, aux trois premières éditions?
Oui.
Oui, et le public est content? Est-ce que la salle est pleine? Ça réagit bien?
Oui, ça réagit bien. Il y a des belles surprises. Il y a des gens, des fois, qui découvrent des personnes qu'ils connaissent, mais qui ne savaient pas qu'ils avaient un certain talent, que ce soit au niveau de l'accordéon ou du chant. Alors, ça permet de découvrir vraiment la personne.
Il y a peut-être des gens qui étaient dans la salle, qui vont être sur la scène cette année. Qui forme le jury qui désignera les gagnants, les vainqueurs?
Là, présentement, on est en train de former le jury. C'est certain qu'on veut essayer d'avoir, peut-être cette année, on aimerait aller chercher quelqu'un, là, soit un journaliste là, qui couvre le côté des arts.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'on veut aussi chercher, nous, quelqu'un dans le domaine artistique, soit là, de théâtral, soit qui fait déjà de la musique. On est en train là, de former ça. Normalement, c'est un jury de 3 personnes.
Oui, un chroniqueur culturel à la radio, ça pourrait être bien parce qu'il couvre pas mal une palette assez large là, de toute l'activité culturelle.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et puis nous, on essaie tout le temps d'avoir un jury qui ne connaît pas les personnes qui vont exécuter leur numéro.
Oui, autant que possible. Non, parce que sans ça sentirait un peu le conflit d'intérêt.
c'est ça.
Oui, et ça se déroule donc un samedi, c'est le 5 mai, et où ça va se passer exactement?
Ça va se passer au Centre communautaire Cécitas Lyon, à Québec, au 523 boulevard Louis XIV.
Mm-hmm.
Alors, on a une grande salle et ça va se passer. Dans l'après-midi, il va y avoir une générale pour les gens qui veulent venir pratiquer.
Oui, parce que vous présentez ça comme sous forme de spectacle. Là. Vous mettez
oui,
ça en ordre.
C'est ça. C'est vraiment un spectacle qui est prévu. Il faut que les gens soient inscrits avant le 4 avril.
Mm-hmm.
Et ils viennent. Il y a une voyons, un horaire pour la soirée. Alors, les gens peuvent savoir qui va faire quel numéro. Tout est indiqué.
Est-ce qu'il y a un animateur ou une animatrice?
Oui, on fait plutôt amateur. C'est sûr que si on avait quelqu'un qui connaît plus le métier d'animateur, on serait bien heureux.
Bon, ben je vous le souhaite.
On anime, là, on s'organise pour animer, présenter chaque prestation pour que les gens soient au courant de qui fait quoi.
Oui, oui. Alors, la soirée a lieu donc le 5 mai. Ça commence à 19h et il y aura la remise des prix. Pour s'inscrire, est-ce qu'on est mieux de téléphoner ou il y a un site Internet?
Vous pouvez vous inscrire au cqpa@belnet.ca ou vous pouvez également vous inscrire par téléphone dans le 418 au 622-5314. Et puis, tous les gens peuvent s'inscrire. Ça peut être des gens de partout dans la province.
Parfait. Alors, Danielle Lessard, coordonnatrice au Carrefour québécois des personnes aveugles, merci beaucoup de nous avoir fait connaître Star d'un soir. Puis, je vous souhaite une très belle soirée en cette 4e édition le 5 mai prochain.
Oui, puis ce que j'ai oublié de dire également, si quelqu'un fait partie d'un duo, d'un trio, d'un groupe, ça peut être aussi une possibilité. Là. C'est
oui,
pas
oui,
obligé
oui.
que ce soit quelqu'un seul.
Des numéros en solo, en duo, en trio, il n'y a pas de limite finalement, de 5
non,
à 105
non.
ans. Tous ceux qui ont du talent, qui ont envie de se retrouver sur une scène et qui sont aveugles ou malvoyants sont les bienvenus.
Oui, puis ils peuvent être accompagnés d'un voyant aussi. Si c'est un groupe de trois, puis il y a une personne handicapée visuelle dans le trio, c'est accepté aussi.
Parfait. Vous nous enverrez des nouvelles de cette soirée-là, puis on aimerait bien diffuser le nom des gagnants et peut-être même les entendre un jour.
Oui, parfait.
Merci, madame.
Bienvenue, bonne journée.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Nouvelle sur le site de Radio-Canada, Camille René a fêté son anniversaire à l'hôpital quelques jours après l'accident de motoneige qui lui a coûté l'usage de ses jambes au début du mois de février. L'une des plus grandes leçons qu'elle retire de cet événement est l'importance d'avoir des assurances. Maintenant, elle se concentre sur un tout autre genre de leçon, ses exercices de réadaptation. La jeune femme de Saint-Léonard d'Aston souhaite réapprendre à vivre normalement ou presque, sachant qu'elle se déplace désormais en fauteuil roulant. Elle fournit d'ailleurs tous les efforts nécessaires à la réussite de cet objectif au centre de réadaptation où elle séjourne à Montréal. « J'aimerais ça essayer de faire du ski, du vélo aussi, continuer à m'entraîner. Et j'aimerais ça voyager quand même », énumère-t-elle. Camille René roulait à basse vitesse dans la cour arrière de la maison de sa meilleure amie à Saint-Félix de Kingsey, d'où elle est originaire lorsque l'accident est survenu. Sa colonne vertébrale a été touchée, elle ne pourra plus jamais marcher. Camille René a été surprise de constater que la Société de l'assurance automobile du Québec ne couvre pas les motoneigistes dans ce genre d'accident. « Il y a un manque d'information », déplore la jeune femme. Elle conseille à tous les motoneigistes de s'assurer d'être bien couverts. Elle ne savait pas que la SAAC ne couvrait pas ce type d'accident. Les proches de Camille René ont donc décidé de lancer une campagne de financement sur la plateforme GoFundMe. L'objectif est de 20 000 $. Cela pourrait lui permettre notamment de modifier son véhicule et son appartement. Skier pour sortir de l'isolement, une nouvelle tirée de lavoisdeleste.ca. Un groupe bien spécial dévalera les pentes de Bromont, montagne d'expérience, aujourd'hui et demain si la météo le permet. Celui-ci est formé d'anciens combattants blessés qui souhaitent, grâce à Soutien aux anciens combattants blessés Canada et à la Fondation des sports adaptés, sortir de leur isolement et d'entreprendre leur réadaptation. La FSA, donc la Fondation des sports adaptés, a l'habitude de travailler avec des vétérans, blessés ou souffrant du syndrome de choc post-traumatique. C'est pourquoi elle a été approchée pour organiser un camp sportif pour une douzaine d'anciens combattants. Le camp a débuté par un cocktail, un souper, une soirée musicale dimanche, lundi, après la location des équipements adaptés et le jumelage de chaque participant avec un bénévole. Ils skieront durant la journée, explique le directeur de la FSA, Steve Charbonneau. Le ski est une excuse pour se rassembler, note-t-il, lorsqu'on lui mentionne les prévisions météo pluvieuses. Le château Bromont, où il loge, offre suffisamment d'options pour faire autre chose. Le camp se termine demain soir. On les réunit pour faire un sport afin de leur redonner confiance, les aider physiquement et skier est une vraie bonne façon de le faire. Le ski est un sport bien connu pour la réadaptation parce que ça aide les muscles du tronc et ça aide les jambes, explique en anglais Judith Webster de la Fondation de soutien aux anciens combattants blessés Canada. Aussi, ils sentent qu'ils font partie d'une équipe. Le programme offert par son organisme qui existe au pays depuis 2 ans se détaille en 3 volets. Le premier est la réadaptation à travers les événements sportifs. Dans la deuxième partie de notre programme, on les jumelle avec un mentor pour une année complète. Le dernier volet est la réinsertion en milieu de travail. Alors, il y a de la grande visite en studio. Maître Normand Jutras, curateur public du Québec. Bonjour, Maître Jutras.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes ici pour nous parler d'une nouvelle campagne sur la protection des personnes inaptes. Et la campagne a comme thème « Si on vous le demande, dites oui ». D'abord, monsieur, on dit Maître Jutras. Qu'entend-on par « personne inapte » ?
Une personne inapte, c'est une personne qui est incapable de prendre soin d'elle-même, prendre soin de sa personne ou incapable de s'occuper de ses biens ou les deux à la fois. Alors, ça peut être une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, ça peut être une personne qui a une déficience intellectuelle, des problèmes de santé mentale ou ça peut être un traumatisme crânien ou une personne qui a fait un AVC sévère.
Et quelles sont nos responsabilités envers la personne inapte?
Bien, en fait, si un de vos proches devient inapte, à ce moment-là, il faut voir à sa protection parce que cette personne-là n'est pas capable de s'assumer elle-même.
Oui, oui.
Alors là, il y a différentes façons de procéder. Nous, au curateur public, on incite toujours à ce que les familles, à ce que les proches s'occupent de la personne inapte. Parce qu'on considère que la personne va être bien servie par quelqu'un qui la connaît, qui l'aime surtout, puis qui connaît son histoire et son vécu. Mais quand cela n'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, les familles sont plus petites qu'auparavant, parfois il y a de la discorde dans des familles, les familles sont dispersées, le curateur public répond présent.
D'accord. Et pourquoi avoir mis une campagne publicitaire à la radio et sur les médias sociaux pour justement inciter les gens à accepter une demande d'une personne inapte à s'en occuper?
Au curateur public, nous faisons beaucoup la promotion du mandat de protection qu'on appelait auparavant le mandat d'inaptitude. Parce que c'est vous qui décidez, alors que vous êtes apte, qui va prendre soin de vous, qui va s'occuper de vous, qui vous protégera si vous devenez inapte. Et le principal avantage du mandat de protection, si vous l'avez fait, c'est que c'est vous qui décidez qui va s'occuper de vous si vous devenez inapte, parce que si vous n'avez pas de mandat de protection, ça implique à ce moment-là qu'une assemblée de parents et amis sera convoquée et peut-être que la décision qu'ils prendront ne serait pas celle que vous auriez pris.
D'accord. Dans la mesure où on peut être une personne apte avant d'être une personne inapte.
Oui, il faut absolument, quand vous le faites, votre mandat de protection, que vous soyez apte.
D'accord.
Mais il faut dire, par contre, que ce n'est pas parce qu'une personne devient inapte qu'il faut nécessairement ouvrir un mandat, ouvrir un régime de protection. Parce que ouvrir un régime de protection, c'est un geste grave parce qu'on enlève à une personne l'exercice de plusieurs de ses droits.
Alors, comme lesquels?
Par exemple, ce n'est plus vous qui allez gérer vos biens. Et déjà, sur en partant, là, c'est important. Et aussi, même les décisions à prendre par rapport à votre personne quant à votre hébergement, par exemple, ou quant à ce que vous voulez pour vos soins de fin de vie. Alors, ça vous donne un exemple des droits.
C'est énorme.
De vos droits qui sont décidés par quelqu'un d'autre.
Oui. Rappelez-nous, Maître Normand Jutras, dis-je bien, en quoi consiste le travail du curateur public?
Alors, le curateur public, disons qu'il y a trois principales facettes. Dans le cas des régimes privés, c'est-à-dire que quelqu'un de la famille a accepté la tâche là, d'être tuteur ou curateur, dans ces cas-là, nous soutenons ces
tuteur
personnes.
Tuteur et curateur, c'est synonyme?
Oui, la distinction, oui. On parle de curateur pour une personne dont l'incapacité est totale et permanente, comme un cas de maladie d'Alzheimer avancée. Tuteur, c'est quand l'incapacité est partielle ou temporaire. Temporaire, comme par exemple quelqu'un qui fait une dépression sévère, mais on peut penser là, qu'elle va s'en remettre.
Oui, oui, oui. D'accord.
Alors, dans ces cas-là, quand c'est un régime privé qu'on appelle, c'est un proche qui a accepté la tâche, à ce moment-là, on soutient ces personnes-là, on les conseille et aussi on surveille l'administration du patrimoine qui est faite par la personne. La personne doit nous faire un rapport annuel et on vérifie ce qu'il en est de son administration, si elle est bien faite. C'est dans le cas des régimes privés. Mais comme je le mentionnais tantôt, quand il n'y a pas possibilité là, de trouver un proche qui accepte la tâche, ou ce qui arrive aussi des fois, soit qu'il n'y a personne qui peut accepter la tâche, ou des fois aussi ça arrive, personne ne veut accepter la tâche.
C'est le curateur public qui s'en occupe.
À ce moment-là, c'est nous qui prenons charge de la personne, qui gérons ses biens, qui décidons de son hébergement, etc. Alors ça, c'est le volet quand la personne est sous régime public. Et par ailleurs, on fait beaucoup la promotion du mandat de protection parce que, en fait, si vous devenez inapte aujourd'hui pour demain, je vous pose la question, qui voulez-vous pour s'occuper de vous? Vous allez me dire, ben, je veux un proche, je veux mon conjoint, mm-hmm. je veux mon père, ma mère, un frère, une sœur, un de vos enfants. Alors, et d'ailleurs, c'est ce que les Québécois disent, d'après des sondages qui ont été faits, 9 Québécois sur 10, quand on leur pose la question, ils veulent que ce soit un proche.
Oui, quelqu'un qu'on connaît bien, en qui on a confiance.
C'est ça.
Oui. Et où on peut trouver de l'information si on décide de protéger un de nos proches?
Bien, moi, je vous invite à consulter notre site Internet, Curateur public du Québec. Alors, il y a une manne d'informations que vous pouvez y trouver. Un de vos proches devient inapte. C'est quoi le mandat de protection? Comment faire son mandat de protection? Vous pouvez le télécharger. Il est avec des instructions. Il est sur notre site Web. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qu'est une personne inapte et comment on peut protéger une personne inapte.
Parfait. Vous êtes curateur public depuis combien de temps, Maître Normand Jutras?
Ça fait 5 ans maintenant.
Ça fait 5 ans. C'est ça. J'ai posé une petite question innocente tantôt. Je me demandais s'il y avait un curateur ou plus de curateurs, mais vous m'avez dit qu'il y a un curateur public, mais il y a beaucoup d'employés.
Oui, on est au-dessus de 700 personnes. On est quelque chose comme 704 présentement et on a 11 bureaux à travers le Québec pour être près, finalement, des personnes dont on s'occupe.
Parfait. Merci pour cette prise de conscience. Puis on va surveiller la campagne sur la protection des personnes inaptes. Si on vous le demande, dites oui. Un grand merci, Maître Normand Jutras, de vous être déplacé en studio.
Ça m'a fait plaisir.
Une nouvelle tirée de TVA Nouvelle. À 11 ans, elle ira se faire soigner à Cuba, faute de traitement ici. Malgré les contre-indications des ophtalmologistes d'ici, une jeune fille de Québec née profondément sourde et dont la vision se dégrade s'apprête à s'envoler vers Cuba pour y recevoir des traitements, dans l'espoir de ne pas devenir aveugle. « On n'a rien à perdre », lance Christine Corriveau, la mère de Laurie Gauthier. La jeune fille de 11 ans est atteinte du syndrome d'Usher type 1, une maladie génétique rare qui se caractérise par une surdité profonde dès la naissance et par une perte de la vue qui s'amorce dès les 10 premières années de vie. Grâce à ses deux implants cochléaires, la pétillante jeune fille est en mesure de s'exprimer à l'oral et entend tout ce qui se passe autour d'elle. Toutefois, il en va tout autrement pour sa vision. En raison de sa rétinite pigmentaire, elle voit comme avec des œillères, alors qu'il ne lui reste que 20 degrés de champ de vision. C'est deux fois moins qu'il y a quelques années à peine. Et si rien n'est fait, la cécité guette Laurie. Les Gauthier ne savent seulement pas quand, puisque la maladie dégénérative progresse différemment selon chaque individu. Elle va tout le temps en régressant, souligne son père Stéphane Gauthier. Ici, tout ce qu'il nous offre, c'est de la laisser tomber aveugle et ils ne veulent pas qu'on aille à Cuba. Lâche l'homme, expliquant qu'aucun traitement pour guérir ni même ralentir la progression de la maladie n'existe au Canada. La seule option qui s'offre à eux est une délicate opération aux yeux et des traitements, ozonothérapie, électrostimulation, proposés depuis une vingtaine d'années par les services médicaux cubains qui pourraient stabiliser la vision de Laurie. Ici Hélène Denis, un grand merci à mes invités, Danielle Lessard, coordonnatrice au Carrefour québécois des personnes aveugles, pour nous parler de la 4e édition de Star d'un soir, et Maître Normand Jutras, curateur public du Québec, pour nous parler de la nouvelle campagne « Si on vous le demande, dites oui » sur la protection des personnes inaptes. Merci à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson et à la technique Maurice Bolduc. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain.